Radio Star.
Morning Edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Je sais que tout cela ne va pas se régler du jour au lendemain. Ce qui se passe ici est catastrophique. Tu sors dans la rue, tu vois au moins 3 ou 5 personnes qui sont blessées. Presque tous les jeunes de Gaza sont blessés.
Vous l'avez entendu, elle vient de Gaza, cette phrase « Gaza et ses blessés par balles ». Ils sont des centaines. Étienne Monin vous racontera que ces blessés par balles multi-opérés, très loin d'être sur pied, sont pris en charge autant que Gaza peut le faire. C'est-à-dire dans des conditions compliquées, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Sous les radars, et Florence Paracolos nous emmène en République démocratique du Congo. Elle déchire avec nous les affiches de Sion 2026, puisque les Suisses ne veulent pas des Jeux Olympiques. Et puis je vous dis rien sur ce défilé de mode à Jeddah, en Arabie Saoudite. 18h50, le monde selon Trump, on fera tout sauf Kim ce soir. Vous verrez que ça ne s'arrange pas entre Trump et Robert De Niro. Vous verrez que le président pardonne beaucoup et que ses collaborateurs sont obligés de recoller ce qu'il déchire. Lui aussi. 18h55, le monde à l'envers de Jean-Marc Four, qui lui aussi forcément a les yeux tournés vers les États-Unis. Et ce texte déchiré là encore, c'est celui du G7. Mais avant, c'est plutôt les Kim qui nous intéressent. Les trois Kim, 1, 2, 3, la dynastie avant le rendez-vous de Singapour. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Le premier, c'est donc le grand-père qui a lutté contre les Japonais, qui a tenté même une invasion du Sud, Kim Il-sung. Et puis, dans la famille Kim, je voudrais le fils, Kim Jong-il, le début d'un programme nucléaire important. Et puis le petit-fils, Kim Jong-un, actuellement à Singapour. Elle nous fascine finalement, cette dynastie, cette monarchie communiste. Sans doute parce qu'on se demande toujours comment elle est encore debout. Bonsoir Pascal Daïès-Burgeon.
Bonsoir.
Vous aussi, vous vous posez la question d'ailleurs de savoir pourquoi elle est debout. Vous la connaissez par cœur, cette Corée Nord et Sud, vous y avez été en poste, vous y avez été diplomate, vous dirigez le CNRS à Bruxelles aujourd'hui. Votre dernier ouvrage s'appelle d'ailleurs « La dynastie rouge Corée du Nord 1945-2016 » et c'est publié notamment chez Tempus. J'ai cette curiosité, c'est compliqué de répondre à cette question, Monsieur Daïès-Burgeon, mais comment qu'est-ce qu'ils diraient les deux précédents de cette rencontre, le grand-père et le père? Comment ils la verraient? Est-ce qu'ils verraient du coup ce petit-fils dans la lignée directe de ce qu'ils ont essayé de mettre en place eux-mêmes ou pas?
Oui, la réponse est oui. C'est leur rêve que de rencontrer un président américain, d'être reconnu en tant qu'État. Et ça y est, le grand successeur, c'est un des titres de Kim Jong-un, il parvient. Donc c'est merveilleux. Il y a une continuité entre le grand-père, le père et le petit-fils. Le nucléaire était un moyen d'amener les Américains à la table de négociation, à la reconnaissance de leur régime, de leur idéologie, de leur spécificité. Et c'est une réussite. Déjà ça, bravo.
Il faut arriver à la poignée de main. En fait, c'est ça, parce que les deux autres, ils sont parvenus pas tout à fait, puisqu'ils ont rencontré des anciens présidents.
Ah, les anciens, oui.
Jamais un président en exercice. Donc déjà la poignée de main.
Clinton y avait songé, mais finalement ça ne s'est pas fait. Donc voilà.
Carter l'a fait, donc ancien président, effectivement.
Et voilà, tout à fait. Donc là, vraiment, pour Kim Jong-un, c'est déjà une victoire. Bien entendu, dans la propagande en Corée du Nord, on va expliquer que grâce au nucléaire, il a amené le président à la table des négociations. Donc c'est un sommet qui peut permettre à tous les deux de gagner, mais Kim Jong-un a déjà gagné ça.
Le point commun entre ces trois Kim, finalement, dans cette dynastie, ce serait lequel? Est-ce que c'est ça, finalement, le fil rouge? C'est le nucléaire du début jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui les relie, ces trois-là, indépendamment du lien de famille, évidemment?
L'absolutisme, c'est-à-dire qu'au fond, ces trois souverains ont pris la suite des dynasties qui ont toujours régné sur la Corée et considèrent que, voilà, s'ils sont la nouvelle dynastie, ils ont eu le nouveau mandat du ciel, en quelque sorte, comme on disait pour la Chine. Je crois qu'il y a aussi la nation coréenne qu'il faut incarner et défendre. On estime que le Sud est encore une colonie des États-Unis, donc eux défendent l'idée, la nation, l'identité coréenne. Ça, les trois le font. Et d'ailleurs, il y a des slogans qui disaient Kim Il-sung c'est Kim Jong-il, et maintenant on dit Kim Il-sung et Kim Jong-il c'est Kim Jong-un. Donc, continuité. Les trois veulent la même chose, et les trois ont des manières différentes d'y arriver, mais ils parviennent.
Tel que vous l'écrivez, vous dites, chacun à sa manière sait flatter la nature farouche et belliqueuse de la population, ce qui est aussi une manière, y compris pour cette population, d'oublier qu'elle vit quand même dans des conditions qui ne sont pas des conditions faciles. Ça a été beaucoup plus dur du temps du père, effectivement, de Kim Jong-un, mais enfin, c'est quand même pas le paradis non plus. Mais les épreuves sont dans l'ordre des choses. Et ça, c'est quelque chose que, d'une génération à l'autre, les Coréens entendent.
Oui, parce qu'au fond, nous considérons que tout État a une existence légale. Je ne suis pas sûr que la Corée du Nord soit un État comme nous le comprenons. C'est un État partisan, un État en résistance, qui a donc tous les droits. Lorsqu'on est dans la résistance, on a davantage de droits que lorsqu'on est dans un État normal. C'est c'est pour ça que l'on, kidnappe des citoyens japonais, on fait des coups de force en Corée du Sud, tout est possible. C'est encore un État résistant qui vit sur le souvenir de la résistance anti-japonaise. L'ennemi fondamental de la Corée du Nord, ce n'est pas les États-Unis, c'est le Japon. Et d'autre part, qui continue dans cette idée-là. Donc, lorsqu'il y a une terrible crise...
Il y a toujours la guerre, en fait. Et c'est ça aussi le point commun.
Il y a toujours la crise entre donc cette terrible famine 95-97. Eh bien, on croyait que ça allait renverser le régime. Au contraire, ça l'a stabilisé. On continue à vous conduire dans les épreuves. D'ailleurs, il faut voir toutes les fresques que le palais royal, si on peut dire, de Pyongyang recèle, qui ce sont toujours des mers déchaînées, des montagnes rocheuses extraordinairement escarpées. C'est un régime qui vit dans la menace, dans la crise permanente.
Le père, Kim Jong-il, utilisait le nucléaire, ça a été le premier à le faire, comme une sorte d'arme de chantage. En fait, comme une arme de négociation, aussi une arme de chantage pour obtenir des choses des Américains. Ça a été le cas, d'ailleurs, on y reviendra un certain nombre de fois. Lui, Kim Jong-un, est-ce qu'il veut plus ? Est-ce qu'il a besoin d'asseoir autre chose, en fait, dans cette partie qu'il est en train de jouer aujourd'hui ?
En tout cas, la seule chose, c'est que par rapport à son père et son grand-père, lui, il y est parvenu. C'est-à-dire qu'il y a des bombes qui fonctionnent, il a des missiles qui peuvent être envoyés. Peut-il mettre ses bombes sur des missiles ? La question se pose. Mais enfin, néanmoins, donc c'est une chose. Mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire que le nucléaire, c'est une arme, c'est un moyen de faire venir les Américains à la table des négociations. On le voit bien. Mais c'est aussi un symbole. Qui a défait le Japon impérial ? C'est l'arme atomique. Donc posséder l'arme qui a défait le Japon, c'est légitimer complètement la victoire de la résistance.
Mais donc,
c'est un usage interne, l'arme atomique.
Ce qui est plus important, est-ce que c'est ce qu'on obtiendra des Américains que le père avait déjà obtenu d'une certaine façon ? Il y a eu un échange contre pétrole, etc. Ou est-ce que le plus important, c'est de légitimer son autorité, en fait, y compris d'ailleurs vis-à-vis de ses concitoyens coréens du Nord ?
Les deux ensemble. L'un va avec l'autre. C'est-à-dire réussir la négociation avec les États-Unis, c'est conforter son autorité. Mener une crise très violente, comme c'était le cas lors du second semestre de l'an dernier avec les États-Unis, c'était aussi conforter son autorité. C'est un régime qui fait tout pour durer, pour se maintenir. Ce qui est relativement logique, puisqu'il n'est pas élu, il ne vient pas d'élection, donc il n'a de logique que dans son auto-continuation permanente. Donc l'un sert l'autre. La politique étrangère sert la politique intérieure.
Pascal Daïs-Burgeon, est-ce que les gens aujourd'hui se souviennent, de quel Kim se souviennent-ils en fait ? Est-ce qu'ils se souviennent plus du père ou plutôt du grand-père ? On dit que la popularité du jeune de Kim Jong-un est plus importante même que son père l'était, qui était quand même extrêmement autoritaire. Aujourd'hui, de quel Kim on se souvient le plus en fait ?
C'est difficile évidemment à savoir.
Le grand Kim symbolique.
Le premier, bien entendu. Car même au Sud, Kim Il-sung a une sorte de réputation parce que c'est le premier résistant. Certes, il a éliminé tous les autres résistants, mais bon, c'est celui qui a résisté le premier ou un des premiers, etc. Donc ça, c'est très important. Puis il a duré 50 ans aussi. Mais en revanche, peut-on les oublier les uns et les autres ? Il y a, semble-t-il, 30 000 statues dans ce pays. Chacun a un pins avec le portrait de l'un et de l'autre. Les deux se confondent. Et on a cette chose totalement étonnante d'un mausolée à la mémoire des deux dirigeants. Nous avons des mausolées dans le monde. Je ne sais pas, Chimine est dans un mausolée. Staline, Lénine l'étaient. Ils n'étaient pas ensemble. Là, les deux sont ensemble, dans le même mausolée. Les statues sont jumelles.
Qui est le plus grand du monde, d'ailleurs, ou pas, ou je me trompe
hein, C'est un gigantesque mausolée qui était l'ancien palais du gouvernement, qui a été transformé en mausolée. Donc, somme toute, c'est une sorte de dictature duelle qui s'est mise en place.
Ce qui est fascinant quand on lit votre livre, c'est de voir jusqu'à quel point, effectivement, ce sont les... Alors, chacun à sa manière, et peut-être avec, effectivement, plus de réussite à l'aboutissement du petit-fils désormais, mais finalement, chacun à sa manière utilise exactement les mêmes clés, en fait. Kim Il-sung, par exemple, est très bon élève de Moscou, vous racontez, mais comprend très vite que c'est les questions militaires qui sont la clé, et que pour son émancipation de Moscou, ce sera ça, de toute façon, la manière de s'émanciper. On a l'impression que c'est le mantra, que ce soit nucléaire ou même avant, c'est le mantra de ces trois-là, en fait, s'émanciper militairement, finalement.
Oui, et jouer, au fond, les grandes puissances qui entourent la Corée les unes contre les autres. Et c'est une géopolitique qui dépasse même la Corée du Nord. Ça a toujours été, depuis les millénaire, la politique de la péninsule coréenne. Un peu la Chine, un peu la Russie lorsqu'elle est apparue dans le jeu, le Japon, les États-Unis lorsqu'ils sont apparus dans le jeu, et là on le voit très bien. Kim Jong-un est en train de jouer maintenant les États-Unis et d'inquiéter
contre
la Chine. Maintenant il commence à faire des appels du pied auprès de la Russie. Le seul qui pour le moment est abandonné, c'est le Japon, mais le Japon va revenir dans le jeu. Donc ils ont toujours fait ça. Ça dépasse l'idéologie, c'est la géopolitique qui le veut.
Et comme vous dites, ils ont toujours fait ça. Il y a d'autres parallèles étonnants. On en parlait tout à l'heure, au milieu des années 80, le Nord annonce qu'il a de quoi faire une bombe, donc on sait comment faire du chantage à l'URSS, sauf que 10 ans plus tard, il n'y a plus d'URSS, donc on se dit on va faire le même chantage aux États-Unis. Et ça fonctionne. Donc il y a cette fameuse rencontre avec Jimmy Carter, ça fonctionne même longtemps, ce petit jeu, en
tout
fait.
À fait oui.
Mais c'est un mensonge à chaque fois, parce que les problèmes nucléaires, ils continuent. Comment se fait-il que là, on puisse imaginer que la dénucléarisation promise n'est pas un mensonge ? Comment est-ce qu'on peut être sûr que Trump n'est pas en train de tomber, mais droit dans le mur ?
Mais rien ne le dit. Je crois que les Américains, d'ailleurs, se méfient énormément. Et on voit bien la dualité à la Maison-Blanche entre un secrétaire d'État qui est assez favorable qu'on règle ce dossier pour pouvoir passer à d'autres dossiers, et puis M. Bolton qui, lui, est absolument persuadé que ce sont tous des gros menteurs et qu'on ne s'en sortira jamais. Hein. Ça, c'est un pari à jouer. Mais dans l'autre sens, c'est un pari aussi. Peut-on véritablement croire les États-Unis qui, après tout, ont fait des revirements, eux aussi, vis-à-vis de la politique,
surtout ces derniers temps,
vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc, somme toute, c'est un jeu dans les deux sens. Mais je crois qu'il y a une chose qui est fondamentale. Hein. Monsieur Trump, il lui reste 2 ans. Kim Jong-un, il lui reste sa vie, à moins qu'il soit renversé. Ça va beaucoup peser dans la balance, le temps.
Alors, justement, est-ce que dans la balance, il y a ça aussi ? C'est-à-dire, il y a l'idée que ce régime se maintient si cet accord se fait ? Parce que, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est s'il donne la dénucléarisation, Kim Jong-un, qu'est-ce qu'il lui reste après pour faire levier ? Au fond.
À l'économie, la levée des sanctions. Donc il sera celui qui aura relancé, ou lancé d'ailleurs, le développement de l'économie nord-coréenne. Car il faut bien faut pas se leurrer, hein. Le communisme c'est fini. Plus personne ne croit au socialisme ni quoi que ce soit. Le rêve des Coréens du Nord, c'est d'être comme les Coréens du Sud. Donc c'est celui qui aura permis ça. Et ça va être extraordinaire. Et il y a un modèle quand même chinois aussi. C'est-à-dire qu'on peut lutter contre la corruption. On n'est pas obligé de tomber dans la Chine délirante du capitalisme rouge de la fin des années 90. On peut très bien tenir en faisant du capitalisme avec des grands trusts d'État. C'est ça dont ils rêvent.
Sauf que le danger, c'est de tomber dans ces cas-là, quand on est un personnage comme Kim Jong-un, non ?
Oui, il peut toujours tomber. Mais enfin, il a éliminé beaucoup de monde. L'élimination de son frère élimine tout autre candidat. Et actuellement, on voit vraiment pas qui pourrait succéder. C'est-à-dire que la seule solution, si Kim Jong-un disparaissait, serait une solution dynastique. Sinon, la Corée du Nord explose. Et le Sud ne veut pas que la Corée du Nord explose. Et puis le Japon ne veut pas non plus. Et puis la Chine non plus. Personne ne veut qu'il explose. Au fond, ce petit pays qui est coincé entre 4 puissances a une géopolitique nietzschéenne depuis toujours. C'est-à-dire le petit s'impose aux autres parce qu'il a tellement peur, il fait tellement peur d'embraser l'ensemble de la planète, puisque c'est les 4 plus grandes puissances qui sont ses voisins.
Pascal Daïs-Burgeon, c'est vrai ce testament secret dont vous parlez dans votre livre qui dit que, en gros, ce qu'on se transmet de grand-père à père et à fils, c'est ne lâche jamais l'affaire nucléaire.
Kim Il-sung en rêvait, Kim Jong-il l'a commencé à le faire, Kim Jong-un l'a fait. Comme je vous le dis, hein, c'est une arme, mais c'est aussi un extraordinaire symbole. Hein, vous évoquez les noms. Kim Il-sung, ça veut dire soleil aussi, hein, c'est pas son véritable nom. Kim Jong-il se faisait surnommer étoile étincelante. Ce sont en quelque sorte des puissants cosmiques, hein, les gens de la dynastie dans un pays encore profondément animiste. C'est donc très important. Ils tiennent la clé du feu du ciel. Lâcher est quand même très difficile. Je crois que dans les négociations, il y aura certainement un moratoire, pas de prolifération, de là à renoncer complètement, immédiatement et définitivement à l'arme atomique, faut voir. Hein. Et je vois que plusieurs spécialistes, professeur Godman par exemple, mettent quelques doutes.
Oui, on n'y est pas encore. Chacun met ce qu'il veut derrière dénucléarisation. Quand on parle de la péninsule ou pas de la péninsule, ça change quand même beaucoup de choses. Sincèrement, ce sera la dernière question. Vous la posez au début, vous la posez à la fin de votre livre. C'est quand même étonnant. Qu'est-ce qui fait quand même tenir ce régime. Quand on y songe, du grand-père jusqu'à maintenant, il y a eu un effondrement du communisme, il y a eu une famine absolument épouvantable, il y a une situation économique qui est tout aussi épouvantable, il y a un embargo terrible. Comment un pays peut encore tenir ? Je veux dire, même l'Albanie est tombée quand on y songe. Enfin,
c'est
je veux
exact.
Dire...
écoutez, deux choses. Hein. Je crois d'abord le nationalisme, la nation coréenne, l'irrédentisme coréen. Les Coréens ne sont pas des Japonais, ne sont pas des Chinois. Ils veulent absolument exister en tant que nation. Et ça, c'est une explication. Et puis, ce à quoi je renvoie, font la thèse de la Boétie, hein, la servitude volontaire. Il y a une sorte de fascination devant l'ultra-absolutisme dictatorial de ce régime qui est... Et puis la peur aussi, hein, c'est un régime qui fonctionne par la peur, car on ne le dit plus du tout. Donald Trump ne le dit absolument pas, mais ça reste quand même un dictateur concentrationnaire.
Oui,
il y a des camps de concentration
en Corée du Nord. C'est bien de le rappeler
ils sont totalement en dehors de la négociation, et c'est bien dommage.
Pascal Daïs-Burgeon, votre livre s'appelle La Dynastie Rouge, Corée du Nord, 1945-2015. Ça se lit vraiment comme un roman, cette histoire dynastique, effectivement, cette monarchie dictatoriale, drôle de chose que la Corée du Nord. J'imagine que vous suivez tout ça avec beaucoup d'intérêt. Nous aussi, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup.
Merci.
France Inter, Fabienne Synthèse,
Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde à Gaza avec des blessés par balles qui sont des dizaines, mais pris en charge comment et qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'avenir de la bande de Gaza? On le verra avec Étienne Monin sous les radars, des Suisses qui ne veulent pas des JO, des drones qui défilent et un opposant assassiné en RDC, ce sera avec Florence Paracuelos. Le monde selon Trump, saison 2 et Marco Voltaire. Bonsoir Marco.
Bonsoir.
Tout sauf Kim avec vous forcément Marco, puisqu'on en sort, on essaye de recoller des morceaux en revanche chez vous.
Oui, et pas qu'au G7. Hein. Trump aurait tendance à déchirer les documents après lecture. Alors il y a un atelier puzzle à la Maison Blanche, puisque pour les archives, eh bien, il faut tout conserver.
Allez, merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure. Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Bah, puisqu'on parle de traiter déchiré à recoller, effectivement, Trump, c'est exactement ce qu'il fait là, pour le coup.
Allez, on va oser une hypothèse en apparence farfelue. La diplomatie de Donald Trump est cohérente.
Le tour de la planète continue. À tout à l'heure, Jean-Marc. Elle passe par le Royaume-Uni de Heavy, Short Change Hero. Heavy sur France Inter, Short Change Hero. Sous les radars, c'est maintenant. Florence Paracuelos est en place.
France Inter.
Good evening and welcome.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Florence, en République démocratique du Congo, pour commencer, l'opposition civile pleure la mort d'un de ses porte-voix.
Luc Nkulula avait 33 ans. Il avait fondé la Lucha, un mouvement de lutte pour le changement en RDC. Il est mort dans la nuit de samedi à dimanche dans l'incendie inexpliqué de sa maison à Goma, dans l'est du pays. De sa voix calme et déterminée, il militait depuis 6 ans pour les droits fondamentaux des Congolais, l'accès à l'eau, l'accès à l'éducation, l'accès au vote, dans un pays où le président aurait dû quitter le pouvoir depuis un an et demi. C'est Joseph Kabila, vissé à son siège depuis 2001 et qui repousse sans cesse la date du scrutin auquel il n'aura pas droit théoriquement de se représenter. Alors aujourd'hui, c'est de tristesse et de rage que pleurent tous les militants pour la démocratie, ses compagnons de la Lucha régulièrement arrêtés, et le comité des laïcs catholiques, organisateur des grandes marches anti-Kabila, réclame une enquête indépendante. Personne ne croit à l'accident. Le docteur Denis Mukwege, vous savez, le prix Sakharov, gynécologue qui soigne les femmes victimes des viols collectif en RDC, le docteur Mukwege salue son sacrifice ultime à l'image de celui de Lumumba, père de l'indépendance, assassiné dans les années 60. Luc Nkulula savait ce qu'il en coûte de lever le poing en RDC. C'est une des images qui restera de cet homme, le poing levé, entouré de policiers lors de sa dernière arrestation en février. Voilà ce qu'il disait il y a un an au Monde.fr.
Nous n'avons rien à perdre, parce que même si je me taisais, mon avenir est condamné. Mais l'essentiel, c'est d'avoir dénoncé un régime illégitime qui est là. L'essentiel, c'est d'avoir dénoncé la passivité de l'opposition congolaise. Et l'essentiel, c'est d'avoir conscientisé la population à s'élever pour ses intérêts. Le reste, je le laisse à l'avenir, quoi.
Luc Nkulula, mort le 10 juin 2018. qui veut des Jeux Olympiques, Florence, en tout cas pas les Suisses.
Et oui, 3 semaines de fêtes, 3 ans de dettes. Le slogan a fait mouche, les Anti-Sion 2026, ce sera les Jeux d'hiver, ont gagné hier. Les habitants du Valais consultés ont dit non au projet soutenu par les élus locaux et par le gouvernement suisse. Non à 54% avec une participation de plus de 60%. Soulagement évidemment dans les rangs des opposants et des défenseurs de l'environnement. Thierry Larget sur letemps.fr, il dirige Pro Natura Valais.
C'est surtout la volonté qui a été exprimée par la population. On lui a posé une question, elle a répondu non, on ne veut pas de Jeux Olympiques, non, on ne veut pas faire profiter de l'argent valaisan au CIO, on veut autre chose et c'est l'enseignement qu'on doit tirer. On doit être attentif à ce que la population nous a dit, à ce que les valaisans nous ont dit.
Voilà, pas de jeu pour les Valaisans, pas de jeu pour les Suisses. Et pour le CIO, hébergé à Genève depuis 1915, pas de tremplin de saut à ski, pas de piste de bobsleigh et presque 1 milliard d'euros d'économisés. Ça, c'est du populisme, regrette le CIO, qui assure que les budgets des comités d'organisation des Jeux ne sont jamais perdants. Mais l'argument ne convainc plus les populations. Budapest, Rome, Hambourg, Innsbruck et désormais Sion disent non. Paris a dit oui, mais va savoir ce que les Parisiens auraient répondu si on leur avait posé la question.
Allez, vous voulez nous faire écouter quelque chose pour finir, Florence ?
Oui, allons-y. Qu'est-ce que c'est, Fabienne ? Qu'est-ce qu'on entend ?
Un essaim d'abeilles derrière de la musique.
Effectivement, c'est tentant, mais non, pas du tout. C'est un défilé de mode. Nous sommes à Jeddah, en Arabie Saoudite, dans le hall de l'hôtel Hilton. Et ce qu'on entend, ce sont des drones.
Attendez, laissez-nous écouter encore un peu. Ok,
voilà.
Sérieux ?
Un défilé de mode féminine, Fabienne, sans femmes. Il a eu lieu la semaine dernière. Des robes longues sur des cintres, suspendues à ces drones que vous entendez comme des fantômes qui volent dans l'air climatisé au nom de la décence pendant le ramadan, a expliqué un des organisateurs du défilé à BBC Arabique. Pas question de montrer des femmes autrement qu'en abaya noire à un public d'hommes, d'où cette ridicule inventivité.
Voilà, donc un défilé de cintres.
Un défilé de cintres volantes. Sorte.
Voilà, et c'est élégant. Merci beaucoup Florence Paracuolo sous les radars tous les jours dans Un jour dans le monde.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est donc à Gaza que nous emmène ce soir l'escale reportage d'Un jour dans le monde. Gaza dont on a beaucoup parlé à cause des récents affrontements avec Israël. C'est ce que vous entendez derrière nous, tout au nord de la frontière. Là, je vous emmène voir les blessés et comprendre surtout comment les habitants désormais ouvrent les yeux sur la gravité des blessures infligées par les tirs à balles réels. 117 personnes ont encore été blessées par balles vendredi, ce qui porte le bilan des blessés à plus de 3700. Bonsoir Étienne Monin.
Bonsoir Fabienne.
Correspondant de France Inter à Jérusalem. Étienne, pourquoi cette situation est tellement alarmante ?
Parce qu'on est rentré dans un processus médical démesuré. Ces blessures sont graves et complexes. Plus de 1000 Gazaouis vont devoir subir des opérations à répétition. Souvent, ce sont des jeunes. Certains sont dans la nature. Il y a un risque d'infection élevé. Les ONG internationales s'organisent pour faire face à cette situation inédite.
Et tout ça est arrivé, Étienne, extrêmement vite, dans un endroit où la médecine est déjà en crise à cause des restrictions, à cause du blocus. C'est une situation catastrophique, vous le disiez, vous nous emmenez le constater dans votre reportage.
Le centre de Médecins sans frontières à Gaza est un point de vue imprenable sur la situation. Dans l'espace attente, la concentration de béquilles est impressionnante. On voit des dizaines de jeunes. Ils ont des broches dans les jambes. Ils sont assis sur des fauteuils roulants ou sur des chaises en plastique. Ils sont entrés dans un long processus de soins. Mahmoud Malaka a 28 ans. Il a pris une balle dans la jambe. Il dit qu'il a déjà été opéré 7 fois. Il dirigeait un café avant sa blessure, il a le sentiment d'être entré dans un tunnel.
Moi, je suis du genre optimiste. Je pense que j'en ai pris pour 2 ans. Là, pour l'instant, presque chaque semaine, je subis une opération chirurgicale. Donc ce n'est pas seulement long, mais c'est dur. J'ai conscience que ça va être compliqué. J'ai une fragmentation des os, j'ai un empoisonnement de la chair et il me manque de l'os sur 12 cm. Je sais que tout cela ne va pas se régler du jour au lendemain. Ce qui se passe ici est catastrophique. Tu sors dans la rue, tu vois au moins 3 ou 5 personnes qui sont blessées. Presque tous les jeunes de Gaza sont blessés.
Pour faire face au nombre croissant de blessés par balle, Médecins sans frontières a plus que doublé sa capacité d'accueil et multiplié par 8 le nombre des expatriés. Presque tous les blessés ont été touchés aux jambes. Les plaies sont impressionnantes, les interventions complexes et c'est un long processus, explique Pascal Marty, chef des équipes médicales.
Ces patients, ils nécessitent au début un très très bon débridement et ensuite ils vont avoir besoin d'autres interventions pour essayer de combler les dommages au niveau de la perte osseuse, couvrir les plaies avec des lambeaux ou avec des greffes cutanées. Ça peut demander 4, 5, 6 interventions.
Pour faire face à ces opérations à répétition, le Comité international de la Croix-Rouge va installer 50 lits dans le principal hôpital de Gaza. Plus de 4000 opérations pourraient être nécessaires d'ici décembre. Il va aussi falloir retrouver les patients rentrés chez eux sans avoir conscience du processus. Gabriel Salazar Arbelaez est le coordinateur médical dans la région du CICR.
Une des priorités, c'est justement aller à la recherche de ces personnes-là. Donc on a une équipe qui est chargée de ça, d'aller approcher les différents acteurs, faire une base de données et justement aller à la recherche de ces personnes-là et de s'informer, de venir à l'hôpital où nos spécialistes vont réévaluer leur situation et à partir de là prendre une décision en termes médicaux et chirurgicaux.
Cet angle mort dans la prise en charge augmente les risques pour la suite. D'après le CICR, 400 personnes d'ores et déjà sortiront de cette situation avec une incapacité temporaire ou permanente. Il y a un risque élevé d'infection avec ce type de blessure, explique Pascal Marty de MSF.
Il est énorme le risque infectieux, il est énorme. Tous les patients qui arrivent, par définition, une plaie par balle, c'est une plaie qui est contaminée. S'ils n'ont pas eu une bonne prise en charge initiale, on peut estimer qu'il y aura des grosses, grosses complications par la suite. Alors le risque, c'est de perdre toute la fonctionnalité de sa jambe, peut-être même de devoir faire une amputation. Le ministère de la Santé en est conscient, mais personne n'a jamais eu affaire à un nombre si important de blessés au même moment.
Plusieurs dizaines de personnes ont d'ores et déjà été amputées. Deux chiffres circulent. 34 membres coupés d'après l'agence humanitaire de l'ONU. 47 d'après le directeur du centre orthopédique de Gaza. Dans un peu plus d'un mois, Mohamed Douéma va lancer la fabrique des premières prothèses pour les mutilés. Pour lui, la situation par certains aspects est pire qu'en 2014 après la guerre.
On est arrivé au même nombre d'amputations, mais cela augmente de jour en jour. Pour l'instant, on a 330 cas de personnes ayant des problèmes vasculaires qui pourraient, pour certains, entraîner une amputation. Et le nombre de personnes qui vont avoir besoin d'un appareillage est en augmentation. C'est plus que pendant la guerre de 2014. Et ce type de blessure est plus compliqué à traiter.
Ce qui marque dans cette situation médicale, c'est la gestion massive et la gravité des blessures. Ce qui marque sur le plan humain, c'est le prix social pour ces jeunes. Avant d'aller manifester, Shadi Yassine faisait partie des rares Gazaouis à avoir un travail et un salaire. Aujourd'hui, il vit au ralenti, blessé par balle à la jambe droite, avec le sentiment d'avoir été lâché après avoir donné son corps pour la cause palestinienne.
Avant, je ramenais de l'argent. Aujourd'hui, c'est de la pitié. Aujourd'hui, ce sont mes frères qui me donnent de l'argent. Mais pour combien de temps? Ils ont aussi leurs responsabilités. Ils ont des enfants. Cet argent doit servir à leurs enfants, pas à moi. Je ne regrette pas d'avoir manifesté, mais si j'avais su que je resterais sans travail, je n'y serais pas allé parce que maintenant, là, personne ne me soutient. J'ai sacrifié ma vie pour Jérusalem, mais je parle des leaders. Pourquoi ils ne financent pas? Pourquoi ils ne soutiennent que leurs proches? Pourquoi ils ne s'intéressent pas à la population?
Pour soutenir l'appareil médical à Gaza, la Croix-Rouge rajoute 3,5 millions d'euros. L'agence humanitaire de l'ONU estime qu'il faudra presque 14 millions d'euros pour agir sur le plan médical à court terme, c'est-à-dire jusqu'en septembre.
Étienne Monin en direct avec nous depuis Jérusalem. Merci beaucoup Étienne pour Un jour dans le monde.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saintès.
I promise you it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actu en série, Le Monde selon Trump, saison 2 et Marco Voltaire. Ce soir, Marco, je vous épargne la description de la suite de Donald Trump et avant sa rencontre avec Kim, on en sort, on en reparlera tout à l'heure, évidemment, dans le journal de 19h. Emmenez-nous plutôt aux Tony Awards, la nuit dernière, où Robert De Niro avait un message spécial pour son président.
Oui, les Tony Awards qui récompensent chaque année le Best of Broadway. Et De Niro arrive sur scène pour remettre un prix à Bruce Springsteen. Il démarre, je n'ai qu'une chose à dire. Et la suite, eh bien, elle se passe de traduction.
Ladies and gentlemen, Robert De Niro.
I'm going to say one thing. Fuck Trump.
C'est vrai qu'on a à peu près compris ce qu'il voulait dire, d'autant qu'il l'avait déjà dit, Marco, Robert De Niro. Grosse ovation quand même, hein, derrière lui dans la salle.
Ouais, la salle est debout, De Niro lève les bras, serre les poings comme un boxeur et s'affuse tout de suite sur les réseaux sociaux. Après les Golden Globes, les Oscars, les Emmy Awards, voilà donc la séquence Trump aux Tony Awards, sans doute la plus violente en tout cas dans le choix de la formule, ce qui dans le même temps conforte finalement le président qui le répète souvent à ses électeurs, les riches libéraux d'Hollywood sont contre nous.
Voilà, alors vous avez fait vous-même le parallèle avec la boxe, l'uppercut de De Niro, boxeur dans Raging Bull, ça on s'en souvient. On va parler d'un autre boxeur, Mohamed Ali, qui est mort il y a 2 ans, Marco, mais Donald Trump veut le gracier à titre posthume.
Oui, Trump a dit avoir une liste de 3000 personnes, c'est beaucoup, qui pourraient bénéficier de la grâce présidentielle. Et parmi lesquelles, ces personnes, il a fait durer le suspense un peu devant les journalistes. Écoutez.
Je pense à quelqu'un que vous connaissez très bien. Il a traversé beaucoup d'épreuves. Il n'était pas très apprécié à cette époque. Aujourd'hui, on a un très bon souvenir de lui. Je pense à Mohamed Ali.
Mohamed Ali, qui avait été condamné par la justice à la fin des années 60 pour avoir refusé d'aller combattre au Vietnam. On lui avait même retiré son titre de champion de boxe. Alors son avocat a néanmoins décliné cette offre de Trump. Il a rappelé au président que la Cour suprême des États-Unis avait déjà annulé la condamnation d'Ali quelques années plus tard. Qu'à cela ne tienne pour le président, c'est le symbole qui compte.
Marco, on va passer à une fâcheuse habitude apparemment du président américain. Semble-t-il, voilà un garçon qui déchire tous les documents qui lui passent entre les mains.
Oui, c'est Politico qui sort cette histoire. Quand Trump reçoit un document, des comptes rendus, une invitation par exemple, il aurait l'habitude de déchirer les feuilles une fois qu'il les a lues et de tout jeter, parfois même par terre, tout simplement dans le bureau ovale. Sauf que eh bien, les archives nationales doivent légalement être récupérées. On veut tout mettre en archive. Alors vous avez des fonctionnaires à la Maison Blanche payés 65 000 $ par an qui, au lieu de faire leur vrai job, eh bien, recolle des documents, parfois des confettis à l'adhésif.
Eh ben dites donc, heureusement qu'il ne les met pas dans la broyeuse, ce serait beaucoup plus compliqué comme travail. Happy birthday quand même, c'est l'anniversaire de votre président cette semaine, dites-moi.
Oui, il aura 72 ans ce jeudi, le 14 juin. J'ai vu qu'il a même déjà reçu un gâteau d'anniversaire aujourd'hui en avance à Singapour. Alors comme je savais que ça vous ferait plaisir, je lui ai souhaité un happy birthday de la part d'un jour dans le monde.
Oui, il y a la preuve et franchement, je ne félicite pas,
Marco. On peut donc remplir une carte sur ce site. Ensuite, on m'a évidemment invité à faire un don au parti. Et là, j'ai dit ça suffit, stop, pour être en fait solidaire de Melania Trump, elle qui n'avait rien reçu de son Donald pour son anniversaire en avril, comme Trump d'ailleurs le raconte lui-même ce jour-là chez Fox News.
Do you want to tell us what you got her?
Je crois que je ne vais pas me lancer sur ce terrain-là. Je vais avoir des ennuis. Je lui ai peut-être pas offert assez. Je lui ai offert une belle carte. Vous savez, je suis trop occupé pour chercher des cadeaux.
Voilà, une carte quand vous êtes marié à un milliardaire.
Non, sérieusement?
Ça a beaucoup amusé les late night shows. Pas sûr donc que Melania lui chantera un happy birthday, Mr. President.
Voilà, une carte du monde, peut-être, vous me direz, Marco. Allez savoir. Là, pour le coup, peut-être que, voilà, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Vous êtes mauvais, finalement. Vous êtes méchant. Merci, Marco Voltaire, en direct de New York pour nous.
Le 18-20. Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, Jean-Marc, Donald Trump, encore, on a du mal à faire sans lui ce soir, il a du mal à quitter la une lui aussi. Donc à Singapour, il va s'entretenir, on le sait, on a parlé à l'instant avec le Nord-Coréen Kim Jong-un. 2 jours après avoir mis le bazar, c'est poliment dit, au sein du camp occidental en refusant de signer le communiqué final du G7, il l'a déchiré selon son habitude. Cette décision lui a valu d'être qualifié d'incohérent par la France, et pas seulement d'ailleurs. Mais vous, dans votre monde à l'envers, Jean-Marc, vous dites, attention, pas du tout, Donald Trump est beaucoup plus cohérent
qu'on veut bien le dire.
Alors, faut bien reconnaître qu'il prête à la caricature avec ses coups de sang et ses tweets vengeurs, mais du coup, tout le monde a tendance à penser que le président américain fait n'importe quoi. Et là, franchement, ça se discute. En réalité, il y a plusieurs tendances lourdes qui dégagent, oui, osons le dire, après tout, une forme de cohérence dans la diplomatie de Donald Trump. Le premier axe, c'est que l'Asie passe avant l'Europe. Ça ne nous plaît pas, mais c'est comme ça. Le président américain, c'était d'ailleurs déjà le cas avec Obama, en fait, accorde plus d'attention à l'Asie pour deux raisons. D'abord, pour des questions de sécurité, et c'est évidemment l'un des enjeux du sommet de Singapour avec Kim Jong-un. Les missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens pourraient atteindre le sol américain, donc il faut supprimer cette menace. Et puis pour des raisons économiques, la Chine est évidemment aux yeux de Donald Trump le seul concurrent digne de ce nom et qui mérite le respect. Donc il faut rechercher un accord bilatéral avec elle sur le plan commercial tout en lui reconnaissant un poids géopolitique. Et à l'opposé, l'Europe, c'est une source de soucis. Trump l'a d'ailleurs écrit à nouveau ce matin dans sa farandole de tweets. Il dit quoi ? Il dit « l'Europe constitue un fardeau en termes de sécurité ». Il dit « l'OTAN coûte trop cher et les États-Unis y contribuent beaucoup trop financièrement ». Et par-dessus le marché, ça, il ne le dit pas, mais il le pense. L'Europe est un nain géopolitique et l'Allemagne possède une balance commerciale vraiment trop excédentaire.
Donc, ce qui nous conduit, Jean-Marc, à la fameuse guerre commerciale déclenchée par Trump. Et là aussi, finalement, ça vous paraît très cohérent ?
Oui, bien sûr que c'est cohérent. Ça n'est peut-être pas du strict point de vue du commerce, parce que les taxations de produits importés vont finir par se retourner contre les États-Unis, mais ça l'aide d'un autre point de vue, et c'est ça la deuxième cohérence, c'est que l'électeur américain passe avant la géopolitique mondiale, et tout dans les décisions internationales de Donald Trump peut être ramené à cette volonté de satisfaire ses électeurs, et donc de remporter à terme le scrutin de mi-mandat en novembre prochain. Washington taxe les importations d'acier. Il s'agit de plaire aux électeurs de la sidérurgie. Washington négocie un deal avec l'opérateur téléphonique chinois ZTE. C'est pour mieux obtenir en retour des exportations de soja américain, donc satisfaire les agriculteurs. Toutes ces décisions protectionnistes accélèrent le désengagement international des États-Unis, mais surtout elles visent à plaire à l'électeur américain, point barre. Et le raisonnement vaut aussi dans d'autres registres. Par exemple, on l'a déjà évoqué ici, le transfert de l'ambassade américaine à Jérusalem, elle réjouit les électeurs évangéliques qui voient, on le sait, dans cette décision, la première étape vers le retour du Messie. Et les évangéliques votent à 80% pour deviner qui, Donald Trump.
Et ouais. Et enfin ça, c'est aussi la traduction de la diplomatie ligne dure au Proche-Orient, Jean-Marc, celle des faucons, comme on les surnomme aux États-Unis.
C'est vrai, c'est ça le troisième axe de cohérence. Au fil des mois, ça n'a échappé à personne, Donald Trump a changé au moins la moitié de ses conseillers. Et le résultat des courses, c'est quoi aujourd'hui ? C'est une équipe tout compte fait homogène, en tout cas sur la politique étrangère, avec quatre personnes qui sont toutes sur la ligne dure, c'est-à-dire sanctions contre les pays ennemis et volonté de changement de régime, regime change, hein, comme on dit en anglais. Oui. Deux hommes, John Bolton, le conseiller à la sécurité intérieure, le secrétaire d'État, patron de la diplomatie, donc Mike Pompeo, et deux femmes, Gina Haspel, chef de la CIA, qui a autrefois supervisé la torture, et Nikki Haller, ambassadrice à l'ONU. Même profil, tous des faucons, décidés en particulier à faire sauter le régime iranien des Mollahs. On cogne d'abord, on réfléchit après. Donc, on se résume. On a trois axes de cohérence. L'Asie plutôt que l'Europe, la politique intérieure plutôt que la grande diplomatie, les faucons plutôt que les colombes. Vous mélangez tout ça, vous ajoutez la pincée de sel finale, c'est-à-dire que Trump est un joueur de poker. Donc il aime laisser l'adversaire dans l'incertitude, il aime faire des paris, il préfère les coups tactiques ponctuels à la stratégie au long terme. Et tout ce mélange déplaît souverainement aux Européens parce que c'est aux antipodes de notre logiciel à nous Européens. Donc il faut juste que les Européens aient le courage d'en tirer les conséquences.
Et on verra ça probablement au fil des jours et des semaines. Jean-Marc Four dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup. On se retrouve demain le 18-20, bien sûr. Continue avec Sébastien Paour pour le journal et puis le téléphone sonne dans un instant. Merci de rester avec nous.